Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la CAQ qui veut interdire les employeurs d'embaucher des décrocheurs, de la violence à l'école primaire, de la société qui devrait donner une chance à Carla Homolka, selon certains organismes, de Jeff Fillion qui est congédié, du sort incertain de l'aide médicale à mourir, de la marijuana qui devrait être légalisée en 2017 au Canada, du cours d'ECR qui est encore contesté et des bonnes nouvelles du jour en rafale. Débutons par la CAQ qui veut interdire aux employeurs d'embaucher des décrocheurs. Et oui, la CAQ s'intéresse à la question du décrochage scolaire et veut lutter contre le décrochage scolaire. Elle veut imposer l'école obligatoire aux élèves de 4 à 18 ans. Mais selon Yves-Thomas Dorval, qui est président directeur général du Conseil du patronat, il croit pour sa part qu'il est important, dans un premier temps, de lutter contre le décrochage scolaire. Mais la presse nous informe qu'il est cependant opposé à l'idée d'interdire aux décrocheurs d'investir le milieu du travail et d'obliger les employeurs à jouer à la police. Ce qui va dire, eh bien, il dit ceci. Si le jeune décrocheur ne peut pas travailler, de quoi va-t-il vivre? Va-t-il devenir un sans-abri? Un membre de gang de rue? Faire de la prostitution? Aller chercher des revenus illégaux? Si tel est le cas, comme société, on ne sera pas plus avancé. Ce sont des bonnes questions qu'il soulève. Oui, c'est important de lutter contre le décrochage scolaire. Écoutez, mon projet de maîtrise en éducation était sur le décrochage scolaire et la culture organisationnelle. Alors, c'est clair qu'on veut avoir une culture scolaire qui favorise la persistance aux études. Maintenant, est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que c'est la bonne approche que la CAQ utilise? Je ne suis pas certain, moi non plus. Je crois qu'on doit avoir une école qui est beaucoup plus axée sur les intérêts des jeunes, sur les passions des jeunes, sur le développement des jeunes, sur le plan scientifique, sportif, intellectuel, artistique. Avoir des écoles qui sont centrées sur des projets et, comme vous le savez, j'ai souvent dit, on devrait, spécialement au secondaire, séparer les garçons des filles pour qu'il puisse y avoir une pédagogie qui se concentre sur chacun des sexes, puisque les filles apprennent différemment et les garçons apprennent différemment. Mais un des problèmes qu'on a à l'école, c'est qu'il y a énormément de violence et il y a deux éducatrices qui sonnent l'alarme et on peut lire un article sur la plateforme du 98.5 FM à ce sujet. Et ce que disent ces deux éducatrices, c'est que ces crises sont de plus en plus nombreuses. Voici ce que 98.5 affirme. Elles surviennent quasiment sur une base quotidienne. En plus, elles augmenteraient également en intensité. Ces deux femmes ont indiqué qu'elles avaient été violentées au moins une quarantaine de fois. De forts coups de poing qui coupent le souffle, des frappes au visage, des morsures, des insultes, sans oublier les gestes causant du stress émotif, comme des excès de colère menant un jeune à défoncer des portes à coups de bâton. À vrai dire, il semble que rien n'est à l'épreuve de certains étudiants. « J'ai même été chargé avec des chaises », raconte l'une d'entre elles. « Je sais que ça fait partie de la réalité scolaire », renchérit l'autre intervenante. Mais que cela devienne une réalité presque quotidienne, non, ce n'est pas normal. Depuis 5 ans, il semble que la situation générale se soit gravement détériorée. C'est grave, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas pour rien que Mathieu Bock-Côté va pour sa part écrire un article sur la plateforme du Journal de Montréal qui est intitulé « Des enseignants doublement trahis ». Il va soulever qu'il y a deux problèmes, justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore de la violence dans les classes? Eh bien, d'une part, les enseignants sont victimes d'une double trahison, celle des parents et celle de leur direction. Il va dire que les directions d'école ne font pas mieux que les parents, parce qu'il y a des parents qui vont, par exemple, soutenir leurs enfants plutôt que soutenir les enseignants dans leur démarche. Mais ce qui arrive, c'est que les directions d'école vont relancer le fardeau sur les enseignants. Évidemment, c'est important que les enseignants apprennent à gérer les crises, apprennent à se débrouiller, à avoir des outils. Mais le problème, souvent, c'est qu'on manque de ressources, c'est qu'on manque d'outils. Et à ce moment-là, les directions d'école renvoient la balle aux enseignants, non pas seulement en termes de responsabilité, mais leur envoient la balle de trouver des moyens. Et s'ils ne trouvent pas des moyens, eh bien, on leur lance le reflet aux enseignants qu'ils sont incompétents. Et ça, c'est dur, c'est difficile. Et lui, ce qu'il va soulever, Mathieu Bock-Côté, c'est que tout ça est relié aux profondeurs psychologiques de notre société qui est brisée. Il va mentionner ceci. Les familles sont éclatées et les parents sont souvent en concurrence pour avoir l'affection de leurs gamins. Les conditions sont idéales pour qu'on passe de l'enfant roi à l'enfant empereur. Par ailleurs, les enseignants sont déconsidérés parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour jouer pleinement le jeu de la société de consommation. C'est un article qui nous fait réfléchir et qui doit nous amener à se poser des questions et éventuellement, et assez rapidement, à poser des gestes. Puisque, comme c'est indiqué sur la plateforme du 98.5, le niveau d'agressivité a augmenté depuis les 5 dernières années. Il y a un élément également qui dérange et qui est relié à des événements agressifs du passé. Ce sont les événements qui sont reliés à Carla Homolka. Parce que, comme vous l'avez appris, Carla Homolka habite Châteauguay. Et donc en banlieue de l'île de Montréal. Et lorsque les gens de Châteauguay ont appris ça, ben ils ont été nerveux parce qu'elle a des enfants qui fréquentent l'école des gens de son quartier. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui se sont levés puis qui ont dit « Oh, un instant! » Et c'est la presse qui nous rapporte ça. « Carla Homolka doit pouvoir réintégrer la société », disent des militants. Alors, cette femme-là, pour se remettre dans le contexte, elle a été condamnée en lien avec deux meurtres qui sont associés à son mari. Elle a purgé sa peine de 12 ans. Et donc, ce que certains militants vont dire, c'est qu'elle a le droit à la possibilité de refaire sa vie. Et d'autres vont être craintifs parce qu'ils se disent, si elle a commis ces crimes-là, parce que si vous vous souvenez, elle avait livré sa sœur à son mari et il l'a droguée, il l'a violée. Elle a été battue. Et donc, si elle a été capable de faire ça avec sa propre sœur, sera-t-elle capable de le faire avec les enfants de son voisinage? Et c'est toute là la question. Alors, ceux qui prennent sa défense vont dire « Vive sans faire de bruit pour un moment à Châteauguay, en Montérégie, laisse croire que la criminelle notoire s'est bien intégrée à la société », a soutenu la directrice générale de l'Association canadienne des sociétés, Elizabeth Fry, Kim Pate. Il y a des parents inquiètes, mais Mme Pate a dit comprendre les craintes de la collectivité, mais a appelé les parents à se demander si leurs enfants sont vraiment en danger. Est-ce que ces craintes sont basées sur des mythes, des stéréotypes ou sur un risque réel, a-t-elle fait le valoir, soulignant que les crimes à caractère sexuel sont la plupart du temps commis par un membre de la famille ou une connaissance? Les parents et les voisins ne devraient pas juger trop durement, Carla Homolka a affirmé la directrice générale de la société John Howard du Canada, Catherine Latimer. Elle a reçu sa sentence, elle a purgé sa peine et il n'y a pas de raison de croire qu'elle n'est pas réhabilitée, a dit Mme Latimer, dont le groupe épaule les condamnés aux criminels à réintégrer la société. La question est de savoir si elle obtiendra la chance d'être réintégrée, a-t-elle poursuivi. Et là, ce qui arrive, c'est que Radio-Canada nous a appris que des preuves vidéo ont montré qu'elle avait été participante active dans les agressions sexuelles répétées contre les deux adolescentes qui ont été tuées par la suite. Et donc, la directrice de l'école primaire Centennial Park a envoyé une lettre aux parents et le lendemain, c'est la commission scolaire qui a été dans le même sens pour dire « On a pris des mesures pour s'assurer que vos enfants sont en sécurité. » Maintenant, ce qui arrive, d'un autre côté, Joe Wambach, qui est fondateur de la Fondation canadienne pour les victimes de crimes, établie à Toronto, estime que Carla Homolka ne peut pas être habilitée. La psychologie d'un tueur en série, la psychologie de quelqu'un qui a été impliqué dans des actes comme ceux auxquels elle a pris part, n'a même pas encore été grattée en surface, à savoir ce qui motive, ce qui pousse, ce qui crée ce genre de personne, a-t-il soutenu. Et donc, oui, on doit laisser une chance à cette dame-là de se réintégrer, mais je pense que les parents et le personnel de l'école doivent être vigilants. Et comme on le dit en bon québécois, on ne peut pas lui donner le bon Dieu sans confession. Ça veut dire, soyons prudents. Donnons-lui une chance, mais soyons vigilants, soyons prudents. Maintenant, il y en a un qui a manqué un peu de prudence. C'est Jeff Fillion, lorsqu'il a commenté justement la sortie d'Alexandre Taillefer concernant le suicide de son fils, en laissant sous-entendre que M. Taillefer mettait la faute sur Amazon. Ce serait la faute d'Amazon si son fils se serait suicidé. C'est un peu ce qu'il laissait sous-entendre. Maintenant, au lieu de s'excuser, eh bien, il a fait d'autres commentaires et Bell lui a montré la porte. Et c'est ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal. Maintenant, il va reprendre le micro, non pas sous la bannière de Bell, mais avec Radio Pirate dès lundi prochain. Maintenant, quel sera son sort sur les grandes chaînes? Je ne le sais pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le sort de l'aide médicale à mourir est incertain selon ce qu'on apprend dans Le Devoir. Pourquoi? Parce que oui, les libéraux sont majoritaires, mais à l'exception des 30 ministres qui sont obligés de voter pour le projet C-14, Justin Trudeau laisse ses députés voter librement sur cette question-là. Maintenant, même si il y a 183 députés libéraux, il faut 169 voix pour que le projet de loi soit adopté. Maintenant, beaucoup de conservateurs sont contre le projet de loi. Les néo-démocrates vont voter librement également, mais les bloquistes vont appuyer les libéraux. Ils sont pour l'aide médicale à mourir. Donc, moi, je crois, je ne suis pas un devin, là, je crois que le projet de loi va passer, mais les observateurs disent que c'est beaucoup plus serré qu'on le croit. Alors, je vous invite à lire cet article du Devoir qui est intitulé, mesdames et messieurs, « Le sort incertain de l'aide à mourir ». Vous pouvez en apprendre davantage en lisant cet article. On voit aussi que la marijuana risque fort probablement d'être légalisée en 2017 au Canada. Mais ce qui arrive, c'est que les chefs de police veulent faire partie des réflexions là-dessus parce que justement, ils ont des craintes. Ils se demandent si le crime organisé va se retirer totalement du marché. Ils sont sceptiques à cet effet et je le suis également. Et donc, ils ont des craintes. Ils préféreraient, par exemple, que l'État décriminalise la marijuana. C'est quoi la différence? C'est qu'ils préféraient que s'ils surprennent, par exemple, des jeunes en train de fumer du pot dans le parc, de leur donner un constat d'infraction, une amende, en disant non, tu ne peux pas fumer en public, par exemple, plutôt que de dire non, tout est permis, tu peux fumer, etc. Parce que l'argument qu'on dit, bon, mais c'est pour pouvoir mieux encadrer la vente et puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de jeunes qui vont être victimes. Ben non, mesdames et messieurs, si les jeunes se procurent déjà sur le marché noir le cannabis, ils vont continuer à l'acheter sur le marché noir moins cher qu'au magasin. Ça ne réglera pas la question, mesdames et messieurs. On voit que Isabelle Maréchal soulève une autre question à controverse. C'est la question du cours d'éthique et culture religieuse. Avant, on contestait le cours d'éthique et culture religieuse parce qu'on mettait toutes les religions sur le même pied, tous les prophètes sur le même pied, incluant Jésus. Mais maintenant, on dénonce le cours parce qu'on se dit, non, il est trop question de religion à l'école, on ne devrait plus ne parler de religion à l'école. Moi, ce que je dis, on devrait avoir ce cours d'éthique de culture religieuse seulement à la 5e secondaire, justement, par culture personnelle. Pas besoin de l'avoir du secondaire 1 au secondaire 5, à tous les jours presque, ou du moins avoir ces cours-là à la grille horaire. Bonne nouvelle en rafale, une femme noire sur les billets de 20$ aux États-Unis. Et donc ça, c'est intéressant parce que cette femme-là, c'est une femme spéciale, c'était une esclave qui est devenue une espionne dans la guerre de sécession, Harriet Tubman. Et donc, ça nous montre une chose, c'est qu'il était temps qu'on libère justement les États-Unis d'une loi qui n'empêchait pas des gens riches d'avoir des esclaves. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Une autre bonne nouvelle, eh bien, savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Le modèle montréalais inspire. Il y a eu la présentation d'un modèle d'intervention policière à Montréal auprès des aînés maltraités. Et donc, ça, c'est un partenariat entre le monde politique, les policiers et le monde universitaire pour développer des tactiques d'intervention plus efficaces pour protéger nos aînés qui sont souvent victimes de violences, d'harcèlement, qui sont maltraités. Et cette dernière bonne nouvelle, Vélo Québec lance le magazine Ville à Vélo, le tout nouveau hors-série gratuit de Vélomag. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le vélo, eh bien, vous pouvez vous le procurer gratuitement. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'horizon. Au revoir!